Eh bien, bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous êtes bien à l'écoute du cinquième épisode de Jeu du mois sur Proxy Jeux. Je suis BenoFX et accompagné comme d'habitude de Cyrus. Salut Cyrus.
Salut BenoFX. Et bonjour à tous.
Cinquième épisode, si je ne me suis pas trompé, toujours deux jeux à l'affiche. Donc moi, je vais vous parler ce coup-ci de Capital Luxe, un petit jeu de cartes. Et Cyrus, tu vas nous parler, toi, de...
Moi, je vais vous parler de Codename Pictures. Alors, je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, mais on va en profiter de cette chronique pour faire un petit parallèle avec Codenames tout court. Et puis, on fera peut-être une petite incartade sur l'actu du moment, puisque Codenames a été nominé à l'As d'Or.
Et donc, le Codenames classique, pas le Codenames Pictures. Bon, allez, je commence. Donc, Capital Luxe. Alors, Capital Luxe, c'est un petit jeu de cartes, hein. C'est un jeu de 72 cartes. En plus des cartes, il y a juste quelques petits jetons qui est sorti là fin d'année dernière, donc en octobre 2016, si je me trompe pas. C'est un jeu de... Alors, attention, j'ai encore eu des noms sortis cette fois-ci du nord de l'Europe. Donc, il y a Eilif Svensson et Christian Amundsen Oddsby. Voilà, donc ce dernier est connu notamment pour être l'auteur de Escape, le jeu de dés en temps réel, là où il faut s'échapper d'un temple.
Ah oui, oui, ok.
Pour ceux qui ont déjà joué, c'est un jeu assez frénétique où on lance des dés, tout le monde en même temps, et il faut faire une sorte de coopération pour sortir du temple.
Ouais, moi je trouve ça excellent.
Ouais, c'est assez rigolo, c'est assez rigolo.
Et là, je crois qu'on est quand même dans un jeu complètement différent, là, pour le coup.
Oui, ça n'a absolument rien à voir. Le tout est illustré par Quenchai Moria. Alors, pour ceux qui sont attentifs et qui ont écouté le dernier épisode, c'est effectivement le même illustrateur que Kodama, mais c'est dans un style complètement différent. On est sur une sorte de peinture un petit peu abstraite, je sais pas comment décrire, mais c'est pas du tout le style enfantin et cartoon qu'on peut avoir dans Kodama.
En revanche, c'est peut-être un peu comme ce qu'on retrouve dans Art of War ou... Comment ça s'appelle Francisco quelque chose, là non
Le mec qui a fait l'auberge sanglante aussi.
C'est ça, et l'auberge sanglante. Santiago...
tu vas le trouver.
Santiago Weberson, c'est ça? Les personnes Santiago.
Oui.
On est peut-être un peu dans ce style-là, et c'est ce qu'on évoquait avec Sébastien Dujardin, c'est que c'est des styles graphiques qu'on retrouve un peu dans les univers enfantins. Ces styles un peu où effectivement on a l'impression qu'on a passé un pinceau assez épais pour peindre.
C'est ça. C'est ça. Donc là, on est dans un thème plutôt futuriste. Donc c'est plutôt du style Art of War ou l'Auberge Sanglante, où on est plutôt dans des thèmes un peu plus médiévaux, on va dire. Là, on est dans un style un peu plus futuriste, mais sur le genre de dessin, oui, c'est à peu près ça. Donc, c'est un jeu qui est édité, qui est co-édité par Aporta Games et Pixie Games. Une co-édition franco-anglaise, en fait. Le jeu est en bilingue directement dans la boîte. Donc Pixie Games, on les présente encore ou on les présente plus, je sais pas.
C'est des... Il faudrait qu'on prenne le temps de les présenter un jour, je pense, parce que c'est un éditeur-distributeur qui monte. J'ai l'impression qui a une production qui est assez prolifique depuis. Ils ont démarré en début de l'année dernière, je crois. Début 2016.
C'est ça. Ils ont à peu près un an d'existence. Ils ont commencé avec un petit Kickstarter qui s'appelle Tunnel, qui est un jeu de cartes très sympathique. Donc voilà, ils ont été éditeurs, l'auteur aussi, l'auteur et l'illustrateur fait aussi partie de cette maison d'édition. Et là, ça fait un an, oui, qu'ils sont sur le marché, qui font pas mal, en fait, ils font beaucoup de localisations de très bonne qualité. On peut penser à Pierre de la Mer du Nord qu'on vous a présenté, et puis à Averoma aussi assez récemment, et il y en a d'autres à venir. Il y a notamment Tiny Epic Galaxy, qui est un très très bon jeu que moi j'aime beaucoup, qui va venir en VF chez eux.
Bon, on va essayer de faire quelque chose. Soit j'essaie de les interviewer à Cannes, soit j'essaie de les inviter en studio, mais je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose.
Avec plaisir. Et du coup, Aporta Games, donc l'autre coéditeur que je ne connaissais pas trop, à vrai dire, qui est en fait en cherchant un petit peu, qui est la maison d'édition tenue par les deux auteurs du jeu. Et donc les autres jeux qui sont sortis, c'était des jeux de ces auteurs déjà que je ne connaissais pas spécialement. Voilà. Je peux en citer quelques-uns si vous voulez, mais je ne connaissais pas moi personnellement. Il y a notamment un jeu qui s'appelle Avenue, un jeu qui s'appelle Automania et un jeu qui s'appelle Doodle City. Voilà.
Ouais, je vois un peu. Doodle City, j'ai joué à la version Android, je crois. C'est un take easy like en fait, c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel on joue chacun de notre côté, enfin, on a chacun une espèce de carte, un plan de ville, puis on va tracer des routes, ajouter des éléments en fait sur notre grille. En fait, on va tous avoir les mêmes éléments qui vont arriver et puis il va falloir les un peu optimiser tout ça quoi. Chacun de notre côté sans regarder ce que font les autres en gros.
D'accord. Donc passons au jeu en lui-même. Alors, le jeu, comment ça se passe? Donc,
Comment ça marche?
Donc, dans Capital Lux, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 72 cartes réparties en 4 couleurs qui représentent, en fait, des notables, on va dire, d'une ville, d'accord? Donc, dans la ville, il y a des savants qui sont représentés par la couleur verte. Il y a des marchands qui sont représentés par la couleur jaune. Des agents qui sont représentés par la couleur bleue et des clercs, donc des curés, en gros la religion, qui sont représentés par la couleur rose. Donc, en fait, ces cartes vont être mélangées. Elles ont différentes valeurs, d'accord ? Il y a des cartes de valeur. En fait, il y a des valeurs allant de 2 à 6. Pour chaque couleur, il y a 3, 2 et 3, 6.
Ouais.
Et 4, 3, 4, 4 et 4, 5.
Voilà. D'accord.
Okay. Ça c'est la répartition des cartes.
Il y a un peu moins de petites valeurs que de grosses valeurs.
Non, il y a un peu moins des deux extrêmes, donc les 2 et les 6, et il y a plus.
Ah pardon, 2 et 6.
Ouais,
oui,
c'est
okay,
ça. Il y a un peu moins des deux extrêmes. Donc ces cartes vont être mélangées. Un certain nombre vont être distribués aux joueurs en fonction du nombre de joueurs. Et en fait, il va y avoir un petit draft pour sélectionner ces cartes. Donc c'est un draft un peu bizarre. Enfin moi, tu donnes deux cartes par deux cartes en fait. Mais comme tu peux en avoir que 5, bah des fois le draft est un peu bizarre, mais bon, il y a un petit draft, c'est pas ce qui est le plus important dans le jeu. Il y a un petit draft pour faire sa main de départ. Et donc en fait, ces 4 couleurs sont représentées dans une capitale. Donc ça c'est, si tu veux, il y a 4 cartes au milieu de la table, représentant chacune de ces couleurs. Donc représentant les savants, les marchands, les agents, les clercs. Et toi, devant toi, tu vas avoir ta ville à toi. Donc au départ, ta ville est vierge, il n'y a aucun notable dans ta ville. Et donc en fait à chaque tour de jeu, les gens vont avoir le choix de rajouter une carte de leur main, soit dans la capitale, en dessous de la couleur correspondante, soit dans sa propre ville, d'accord ? Donc de créer une catégorie dans sa ville. Alors bon, jusque là rien de bien sorcier. Et en fait on va jouer comme ça jusqu'à que quelqu'un n'ait plus de carte. Quand quelqu'un n'a plus de carte, je vais vous expliquer pourquoi. Il peut y avoir des dissymétries de cartes, même si on commence avec le même nombre de cartes, il y a des événements qui peuvent changer le nombre de cartes. Donc dès qu'un joueur n'a plus de cartes, tout le monde a encore un coup libre, on va dire, avec le choix entre mettre soit à la capitale, soit dans sa ville. Et à la fin de ce tour libre, en fait, toutes les cartes qui seraient restantes dans votre main descendent automatiquement dans votre ville. Peu importe la couleur, peu importe la valeur, en fait, ça descend dans votre ville. Donc ça, c'est la fin d'une manche. Ça se joue en 3 manches au total. Voilà. Donc à la fin d'une manche, on va faire ça. Et en fait, le but là du jeu, c'est un petit jeu d'équilibre, c'est-à-dire que dans votre ville, il faut toujours que la somme de vos notables d'une catégorie soit inférieure à ceux de la capitale. Parce que la capitale, c'est quand même le plus.
Faut respecter la capitale.
C'est ça, faut respecter la capitale. Donc si vous avez une catégorie qui dépasse la valeur totale, en fait, du coup, comme les cartes ont des valeurs et qu'on en met soit dans la capitale, soit dans notre ville, et voilà, la somme à la fin de la manche, si la somme des valeurs de notre ville dépasse celle de la capitale, automatiquement, toutes les cartes sont défaussées et on perd tous les notables de sa ville dans cette couleur.
D'accord.
Si la valeur de nos notables est inférieure, on garde nos notables dans notre ville et donc les cartes ne sont pas défaussées. Parmi ces cartes qui ne sont pas défaussées parce qu'elles sont inférieures à la valeur de la capitale, on regarde pour chaque couleur quel est le joueur qui a la valeur la plus forte.
Ouais.
La plus forte, mais inférieure à la valeur
celui
de la capitale.
Qui a le plus flirté avec la limite.
Voilà, celui qui a le plus flirté avec la limite, donc celui qui a la valeur la plus forte, et dans la capitale, il va prendre la carte de valeur la plus forte de la capitale et il va la prendre pour lui et la mettre de côté, en fait, la marquer comme point. Ce sera des points à la fin de la partie. Donc là, ça va avoir pour effet immédiat, pour la deuxième manche, du coup, de baisser la valeur totale de la capitale.
Ah d'accord, ok. En fait, on va garder la capitale telle qu'elle est.
Oui,
en fait.
Et nos villes aussi, en fait. Entre chaque manche, nos villes et la capitale restent telles qu'elles sont. Là, juste dans nos villes.
Et sauf que du coup, la capitale, elle est amputée de sa meilleure carte.
Voilà, dans chaque catégorie, celui qui a la valeur la plus forte sans dépasser la capitale récupère la carte la plus forte de la capitale, la met de côté et ça fait des points pour la fin.
Il n'y a pas de lot de consolation pour le deuxième, c'est que le premier d'une catégorie qui prend une carte.
C'est que le premier, et en cas d'égalité, les deux premiers prennent une carte. Donc on peut, en cas d'égalité, on peut amputer de deux cartes la capitale du coup.
Ouais, ok.
Et donc voilà, deuxième manche va repartir, il va falloir forcément jouer du coup des cartes aussi à la capitale pour éviter de dépasser et de devoir se défausser de toutes ces cartes. Sachant qu'à la fin, en fait, toutes les cartes qui sont présentes dans notre ville vont compter comme des points. Donc il n'y a pas que les cartes qu'on met de côté pendant les manches par rapport à ces valeurs les plus fortes.
Ouais.
En fait, le but, c'est d'avoir aussi la ville sans dépasser la capitale la plus forte possible en fin de partie. Car toutes les cartes qui sont présentes dans notre ville et pas défaussées compteront comme des points. Donc les cartes 6 vaudront 6 points, les cartes 5 vaudront 5 points, etc.
Ah, ça a l'air assez malin.
Alors voilà, ça c'est le principe de base, mais il y a des petites subtilités qui font que c'est bien plus marrant que ça. Parce que là, c'est plutôt chouette. Mais donc, quand on joue une carte dans sa ville, il ne se passe rien de particulier à part que cette carte rejoint notre ville. Par contre, quand on joue une carte à la capitale, en fonction du type de carte qu'on joue, il va y avoir une action spéciale, supplémentaire. Donc, c'est-à-dire, je vais rajouter une carte savant, par exemple, donc une carte verte savant à la capitale. Donc, quand je joue une carte verte à la capitale, je pioche immédiatement une carte. Il y a une pile de pioches, hein. Donc si je joue un savant, une carte verte à la ville, je récupère une carte, donc j'ai une carte de plus, donc c'est là qu'il y a
d'où le fait qu'il y ait des joueurs qui aient des cartes et d'autres plus, quoi.
C'est ça, c'est là que la dissymétrie de cartes peut s'effectuer, et du coup là je vais avoir des cartes en plus, donc ça me permet peut-être d'avoir plus de choix dans ce que je vais jouer, mais en même temps si les autres terminent avant moi et que je ne peux plus poser mes cartes, j'ai plus le choix, donc je suis obligé de les mettre dans ma ville, donc si j'ai gardé des cartes fortes à la fin, ça peut me faire éventuellement dépasser la capitale et défausser les cartes de cette catégorie. Donc c'est un équilibre à trouver, jouer des cartes vertes au milieu,
c'est à double tranchant, quoi.
Faut en jouer de toute façon pour monter la valeur de la capitale, sinon on peut pas en jouer chez nous, mais en même temps ça nous fait récupérer des cartes, donc c'est un peu risqué. Donc ça c'était les cartes vertes, les savants. Ensuite il y a les cartes jaunes, les marchands. Donc si tu joues une carte jaune à la capitale, tu récupères une pièce d'or. En fait, il y a des espèces de gros jetons jaunes qui sont des disques d'or. Donc les disques d'or, t'en récupères un quand tu mets une carte chez le marchand. Donc ces disques d'or, ils ont deux utilités. Premièrement, à la fin de la partie, s'il t'en reste, ça vaut un point de victoire par disque d'or. Et ensuite, ils te permettent de soudoyer la capitale. En fait, dans le cas où t'as une catégorie qui va dépasser un peu la capitale, par exemple, la capitale est à 15 et toi, tu es à 16 dans la même catégorie.
Ouais.
Tu peux la soudoyer en donnant un disque d'or par cran d'écart, en fait. Donc, c'est-à-dire si t'as deux de plus et que t'as deux disques d'or, en donnant deux disques d'or, pour cette manche-ci, la capitale fermera les yeux. Et le fait que tu aies une valeur dans une des catégories un peu élevées, ben, en payant des disques d'or, tu peux, en fait, baisser cette valeur pour la manche en cours. Et donc tu la
baisses fictivement, c'est-à-dire qu'en fait tu vas pas gagner une carte, quoi.
Non, en fait tu vas pas
juste tu vas garder
voilà,
tes cartes.
Voilà, tu vas pas les défausser. Tu défausses par contre les deux disques d'or que tu dois utiliser.
Oui, évidemment.
Tu défausses pas tes cartes. Donc ça te permet éventuellement au prochain tour de rajouter des cartes à la capitale dans cette couleur pour éviter, enfin ça c'est un peu un sursis, quoi.
D'accord.
Et c'est
un sursis et puis ça peut te permettre de garder les cartes à la fin,
voilà,
aussi, j'imagine, à la dernière manche.
Effectivement, si t'as déjà 10 ou 12 points dans une catégorie et que à un point près tu vas les perdre, vaut mieux que tu utilises un disque pour les garder. Donc ça c'était la carte jaune, c'est le marchand. Je vais garder l'agent pour la fin parce que c'est assez rigolo. Donc le bleu je le garde pour la fin. Ensuite il y a le clair qui est la carte rose, pardon.
Le rose, c'est ça.
Donc en fait ça.
J'ai suivi un peu quand même.
Ça te permet, donc quand tu mets une carte rose, ça te permet de prendre un notable dans la capitale d'une des trois autres couleurs. En fait, tu choisis la carte la plus faible, tu es obligé de prendre la carte la plus faible et tu la mets directement dans ta cité. C'est-à-dire,
d'accord,
je place un clair, je peux aller chercher un marchand qui vaut 2 et le mettre directement dans ma cité. Donc, ça baisse la capitale et ça augmente ma cité.
Ah, mais c'est bien si c'est une couleur que t'as pas trop dans ta cité
Ouais.
et que les autres ont
Voilà, c'est ça quand.
plutôt pas mal dans leur
Voilà,
cité. C'est un peu le coup de pute, quoi,
C'est
j'imagine.
ça, quand les autres commencent à flirter un peu avec les valeurs de la capitale, ben là, venir baisser les valeurs d'une certaine couleur de 2 ou 3, ça peut leur faire mal, et toi, ça peut te permettre de rattraper aussi un peu le retard que t'avais. Sachant que, en fait,
Ouais.
si t'élimines, enfin, si quelqu'un est vraiment en tête, limite, tu te dis, bon, il va gagner, enfin, il va gagner la carte bonus, on va dire, pour avoir la valeur la plus forte. Mais là, tu peux complètement changer la donne en disant, ben non, je baisse la valeur de la capitale. Donc toi, tu vas devoir défausser tes cartes, puisque tu passes au-dessus. Et
Ouais.
moi, je passe, comme j'étais second ou troisième, je passe premier, en fait, et je vais récupérer la carte bonus. Voilà, donc l'éclair, ça sert à ça. Sauf que l'éclair, du coup, on peut jamais en récupérer de cette manière-là, puisque le pouvoir s'applique que sur les trois autres couleurs.
Oui, évidemment.
Et ensuite, la surprise du chef, c'est l'agent, c'est la carte bleue, qui a quatre cartes qui sont des modificateurs de valeur. D'accord? Qui sont pas des cartes, en fait. Donc c'est des cartes qui font soit plus 4, soit plus 2, soit moins 3, ou soit moins 1. Donc en fait, quand tu joues un agent, il y a quatre cartes disponibles, t'en pioches une au hasard, tu regardes le modificateur, et tu vas la placer face cachée, à la capitale, en face d'une couleur. Donc ça veut dire que tu ne sais jamais exactement, une fois qu'une carte modificateur est jouée, tu ne sais jamais exactement la valeur précise de la capitale, puisqu'elle peut être augmentée de 2 ou 4 ou diminuée de 3 ou 1.
Ah, tu, attends, pardon, tu, alors attends, tu joues un agent, d'accord? Tu prends une carte face
Voilà, y a,
cachée
en
dans
fait,
une pile, c'est ça que tu
il y a
spécifiques?
4 cartes disponibles par manche modificateur. Donc il y a
D'accord.
une carte plus 4, une carte plus 2, une carte moins 3 et une carte moins 1. Quand tu joues un
D'accord.
agent, tu pioches parmi ces quatre cartes. Si tu joues un agent et qu'elles ont déjà tous été jouées, bah, y a
Ça fait
pas
rien, du
d'effet.
coup.
Et du coup, seul celui qui pose l'agent va connaître la valeur de la carte qu'il le
Ah,
pioche.
lui, il sait quand même,
Ouais,
ok.
lui, il sait. Lui, il voit ce que c'est et il choisit, en fait, au niveau de quelle pile il va la mettre, face cachée. Donc, soit en face des verts, des jaunes, des bleus ou des roses, quoi. Et du coup, ça, c'est
D'accord.
révélé à la fin de la manche pour calculer la valeur de la capitale.
Ok, ouais. C'est pas. Enfin, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ça amène. Enfin, j'ai l'impression que le jeu, il est plutôt. Jusque-là, il est orienté quand même assez carré, assez maîtrisé, tu vois. Et d'un seul coup, ce truc-là, j'ai l'impression qu'il amène du chaos. Ça marche bien.
En fait,
C'est pas. Ça pourrit pas un peu tes
non,
parties?
pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas trouvé du tout. C'est justement ce qui ramène un peu de sel parce que, en fait, c'est ce qui fait qu'il n'est pas purement calculatoire. Si t'enlèves ça,
Ouais.
c'est du calcul pur. Enfin, il y a plus vraiment. Tu peux vraiment tout calculer. Et du coup, ça enlève un peu de fun. Ça permet d'amener ce petit doute qui est vraiment sympathique. Et tu peux contrôler ce doute en fait en jouant ces cartes-là, quoi.
En les jouant,
En
ouais.
jouant ces cartes-là ou en prenant un
Oui,
peu.
c'est
Après,
vrai.
c'est de la prise de risque. Tu peux prendre, enfin, c'est un peu de bluff et de prise de risque aussi, hein. Tu sais qu'il y a une carte jouée. T'es à 1 en dessous. Tu te dis s'il y a un moins 3, ça passe pas. S'il y a un moins 1, ça passe. Ou c'est à toi, après, de pas prendre le risque, de dire, bon, bah là, il y a un modificateur. Si c'est un moins 3, je veux pas prendre le risque. Donc, je vais pas rajouter de carte de cette couleur. Je vais plutôt les jouer à la capitale pour assurer le coup. Quitte à peut-être donner plus de points à un adversaire. Mais voilà, c'est. Donc voilà, il y a trois manches comme ça en fait. Donc à chacune des manches, tout ce qui est dans la capitale et tout ce qui est dans vos cités reste en place. D'accord? Donc on va redistribuer des cartes, on refait un petit draft et c'est reparti pour une deuxième manche, puis une troisième manche. Et à la fin de la partie, on compte toutes les cartes qui sont encore présentes dans votre capitale, plus toutes les cartes que vous avez enfin que vous avez mis de côté du coup en ayant les plus fortes valeurs. Parmi les cités, et
Ah
plus les jetons, les disques d'or que vous avez gardés,
ouais.
et donc ça fait un total. Donc c'est un petit jeu qui va assez
Ok.
vite. Les parties, même avec,
Ouais, ça fait quoi, 20 minutes, non?
ouais,
30?
20-30 minutes à tout casser pour les trois manches, hein, le temps de distribuer tout ça, d'expliquer un peu, enfin, de se charrier un petit peu, de bluffer un petit peu sur le fait qu'on a mis un modificateur, moins, plus, puis d'hésiter un peu, ouais, c'est ça, c'est 20 minutes, une demi-heure pour les. Pour les trois manches. Donc c'est de 2 à 4 joueurs. Alors moi j'ai fait des parties à 3 et à 4. J'ai pas testé à 2 encore. Mais je pense que ça marche très très bien à 2 aussi. Puisqu'on
Ouais.
a. En fait, on a.
C'est de 2 à 4, ça t'as
Ouais, de
dit?
2 à 4, c'est ça. On a le même niveau d'information quelque part à 2 qu'à 4. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il est simple. Enfin, il est vraiment assez simple à expliquer et assez simple à jouer. Mais il est vraiment intéressant parce que il a un petit peu calculatoire. Voilà, il faut aimer les jeux où on peut, où il faut qu'on compte. En fait, tu comptes sans cesse à combien sont tes adversaires, à combien t'es, à combien est la capitale, etc. Et tu dois.
Ouais, c'est peut-être un peu laborieux ça, le comptage, ça pour le coup, ouais.
Ouais, enfin ça se fait bien. Après, t'es pas. Ça dépend comment tu aimes jouer, mais moi je suis pas à compter pile poil à chaque fois. Je sais qu'en gros. Ou alors, tu sais chez qui il faut compter, tu vois. Tu sais qu'il y a des gens qui sont complètement dans les
Oui,
choux, ou
c'est ça.
des gens qui sont complètement au-dessus.
Oui, parce que finalement, t'es jamais les quatre couleurs où t'es
Non.
en train de
Tu
flirter, quoi.
peux.
Donc du coup, admettons que t'es en train de flirter au niveau du vert, bah tu regardes un peu ce que les autres où sont les autres en vert, quoi.
Ouais, et en plus, tu joues finalement assez peu de cartes par manche, puisque en fait, si t'es à 2 ou 3 joueurs, tu vas distribuer 6 cartes par joueur. Et si t'es à 4 joueurs, tu vas distribuer 5 cartes par joueur en début de partie. Donc il y a l'histoire de
D'accord.
petit draft pour essayer de choper ou de changer un peu des cartes. Donc il y a un
Ouais.
petit draft au début aussi qui fait que tu peux un petit peu choisir ta main. En fait, c'est plutôt un draft où tu choisis ce que tu ne veux pas plutôt que ce que tu veux en fait. Tu te débarrasses de certaines cartes et les autres t'en donnent d'autres. Enfin, c'est pas un draft où tu
Ouais,
vas.
ou te donne ou te donne les cartes que tu veux pas quoi, que tu veux pas
C'est
quoi.
ça. C'est ça parce qu'en fait, attends, je vais te lire le draft, mais en gros, donc tu reçois par exemple à 4 joueurs, tu reçois 5 cartes. Chaque joueur choisit 2 cartes et les place face cachée devant lui. Et donc ça, c'est des cartes que tu gardes. Et après, tu passes les 3 cartes restantes. Là,
Ouais.
t'en choisis
Et
2.
les trois cartes, tu les... Non,
Là, t'en
d'accord.
choisis 2. Et la dernière, en fait, tu la donnes sans qu'il y ait de choix. C'est la carte qui reste
Ouais,
quoi.
bien sûr. Hein. D'accord.
Voilà, donc ça c'est le petit draft qu'il y a au début. Ça va vite, c'est malin. Enfin, le système est vraiment malin, je trouve, de cette recherche d'équilibre entre il faut que je sois le plus proche possible de la capitale, mais il faut jamais que je le dépasse. Enfin, c'est vraiment assez sympa à gérer. Tu peux vraiment aussi jouer sur le fait de garder en main, donc de piocher des cartes et de garder en main des cartes de couleur que tu n'as pas ou tu es très large pour pouvoir jouer beaucoup à la capitale pour déclencher des pouvoirs. Et pour à la fin en fait poser tes cartes automatiquement dans ta cité. Si quelqu'un finit avant toi, tu poses automatiquement dans ta cité. Donc ça t'as cette petite gestion de main aussi qui est sympa. C'est des micro-mécanismes qui sont vraiment bien. C'est un jeu pas très compliqué, qui va vite. Et moi j'ai alors sans être le coup de cœur de l'année, c'est un de mes coups de cœur de la fin d'année dernière, début de cette année.
Ouais, mais je pense que ça me plairait comme jeu. Faudrait, enfin, ouais, du coup, j'irai voir ça à Cannes, je pense.
Ouais, ben.
Est-ce que tu t'as des dilemmes quand même quand tu joues? Est-ce que t'as des moments où t'hésites entre mettre la carte chez toi ou la mettre à la capitale, ou est-ce que finalement, une fois que t'as fait le draft, ça coule un peu de source?
Non, ça coule jamais de source parce que déjà, t'es très dépendant de ce que les autres vont faire. Parce que si ton
Ouais.
adversaire, la même carte, s'il la joue à la capitale ou dans sa cité, ça change complètement peut-être ce que toi tu vas faire. Et en plus, comme il y a des modificateurs, comme il y a des pouvoirs qui permettent de récupérer des cartes ou d'enlever des cartes de la capitale, en fait, t'es ultra dépendant de ce que les autres font.
C'est plutôt un jeu d'opportunité. Alors il y a ouais, donc c'est calculatoire, mais c'est opportuniste quoi.
C'est
C'est-à-dire
ça.
que il va se passer beaucoup de choses pendant la manche
C'est
quoi.
ça, mais après tu peux anticiper un peu dans le sens où bah, tu te dis bon lui il doit avoir ce genre de carte, s'il le met là ça fait ça, s'il le met là ça fait ça, donc je préfère ça. Enfin tu peux anticiper, mais t'es quand même voilà t'es quand même dépendant. Il y a pas mal d'opportunisme, il y a un peu de bluff aussi hein, parce que forcément les gens savent pas ce que t'as
Parce
en
que les
main,
cartes agents.
les cartes agents, les gens savent pas ce que tu vas jouer après eux, donc il y a des petits coups aussi. C'est un petit jeu où tu peux faire des coups méchants hein, quand tu vois que quelqu'un monte pas mal une
Oui,
couleur, tu
j'imagine,
peux
ouais.
un peu discuter avec les
En
autres.
jouant en clair.
Non, mais après, tu peux te liguer aussi en disant, bon, bah, on va monter ça, comme il est en tête, comme il a déjà pas mal de cartes de côté, etc. Bon, on va jouer ça pour un peu monter. Bon, après, quand tu fais ça, ça va peut-être le faire perdre une colonne, mais il va peut-être se rattraper sur les trois autres. Enfin, j'ai trouvé ça très bien équilibré. J'ai fait à peu près 5 parties pour le moment. Il n'y a pas une partie. Alors il y a des parties où il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à anticiper. J'ai fait des parties avec des personnes qui ont du mal à anticiper et qui du coup sont vraiment trop hautes, soit sont tellement basses qu'elles n'ont pas finalement beaucoup de points ou pas de points bonus. Donc il y a quand même une notion de gestion et d'anticipation de ce qui va se passer.
Ok.
Bah voilà pour Capital Lux. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Bah c'est disponible chez notre partenaire Philibert. Hein. C'est 16 € je crois chez Philibert. Donc
Non, pas très cher en
c'est
plus,
pas
ouais.
très très cher. En fait, c'est C'est qu'un jeu de cartes, donc moi ça aurait pu être un petit peu moins cher, mais il y a les fameux disques d'or là, qui auraient pu être des pièces ou des tokens.
Qui sont vraiment plaqués or.
Bah, en fait, ça aurait pu être des tokens carton un peu bêtes et tout, mais là ils ont fait des disques en bois en fait, c'est des jetons bois qui sont assez énormes en fait. Enfin, voilà, c'est un truc, ça fait pratiquement, je dirais, 4 cm de diamètre. C'est des gros, c'est des bons gros disques en bois quoi. Et voilà, règle anglais et français dans la boîte pour ceux qui sont anglophones.
Ok, donc tu rappelles les auteurs,
ouais.
La fiche signalétique.
Alors, Capital Lux, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, environ 30 minutes de jeu, qui est un jeu de Eilif Svensson et Kristen Amundsen-Otsby. L'auteur d'Escape, donc, illustré par Quenchai Moria. Donc, très belles illustrations encore de Quenchai Moria, dans un style assez particulier, mais moi j'aime beaucoup. C'est une coédition Aporta Games et Pixie Games. C'est sorti le 21 octobre 2016, a priori, et c'est disponible actuellement dans toutes les bonnes crèmeries de jeux.
Ok, bah super. Écoute, et moi je vais aller essayer ça à Cannes, alors du coup, je pense.
Bah écoute, je l'amènerai si on a le temps de faire une partie. Ce sera avec plaisir.
Ah bah pourquoi pas, ouais. Alors on va passer à Codename Pictures du coup.
Bah ouais, on t'écoute.
Donc Codename Pictures ou Codenames Images à apparaître donc en français chez Yellow. Donc, c'est un jeu de Vladash Vatil. Alors moi aussi j'ai ma dose de noms que je vais écorcher.
Ah oui, parce qu'il y a plein d'illustrateurs.
Ouais. Il y a pas mal d'illustrateurs sur la version image. Donc on a David Kochar, Jana Kilianova, Thomas Kucherowski, Philippe Neduc et Michal Souchanek. Donc voilà, donc 5 illustrateurs. Alors déjà à noter qu'il y a, j'ai été étonné en fait parce que je m'étais pas trop renseigné avant la chronique sur les illustrateurs. Je pensais qu'il y en avait qu'un en fait bêtement, parce que je trouve qu'il y a une vraie cohérence graphique dans les images. On n'a pas l'impression que ça a été fait par 5 illustrateurs différents.
D'accord.
En sachant que sur la boîte en plus il y a 2 designers qui ont été crédités, designers graphiques. Donc je suppose que c'est
la mise en page, la mise en page des cartes et tout ça. Et puis.
Oui, ça doit être ça là, plutôt sur la mise en page et peut-être pour les règles. Donc le jeu, il est annoncé à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Et donc je disais apparaître chez Yellow, donc il devrait sortir en fait pour Cannes. Donc pour le 24 février, si je me trompe pas. Mais il est disponible en anglais chez Philibert. Alors évidemment la règle est en anglais, mais d'ailleurs on l'a pas dit pour Capital Lux, mais je pense que il y a des textes sur les cartes.
Non, le matériel est complètement neutre aussi.
Alors pourquoi j'ai voulu vous parler des Codenames Images alors que Olivier au DPJing nous a déjà fait une chronique sur Codenames tout court. Alors deux raisons. Déjà parce que Codenames est nominé à l'As d'Or.
Oui.
Et une autre raison parce que moi je trouve en fait je préfère en fait la version image. Déjà première chose, Codenames pour moi, réponse à Olivier, je trouve que c'est beaucoup plus accessible déjà de base que Agent Trouble. Je suis pas du tout d'accord avec toi Olivier. Bon voilà, on en parlera tous les deux en tête à tête. Pour moi, faire la comparaison avec Agent Trouble, il faut du bagou, il faut quand même réussir à improviser des choses sur des questions qu'on va pas connaître d'avance. Alors que dans Codenames, on joue déjà de façon coopérative. Et puis finalement les cartes elles sont sur la table, il y a pas d'improvisation quoi. Donc pour moi ça me paraît déjà être un jeu plus accessible. Ensuite la version image elle est d'autant plus accessible que il y a plus de texte, ce sont des images. Alors on le voit d'ailleurs directement sur la boîte. Alors je me suis dit mais d'ailleurs je pense que l'âge affiché doit être différent. Et effectivement, sur la version image elle est recommandée à partir
c'est
de 10
ans.
C'est
2 ans de moins, c'est ça.
C'est ça, c'est 2 ans ouais. De moins. Ouais. Donc c'est 10 ans pour la version image et 12 ans pour la version normale, texte on va dire. Et moi je trouve que c'est aussi plus... Alors, je pense que ça dépend des gens, mais bon, je vais peut-être faire un topo très rapide quand même sur ce que c'est le jeu,
oui.
Parce que en fait, je fais des comparaisons, mais bon, on sait jamais. Des fois, qu'il y en ait un ou deux
qui n'est pas vu passer, ouais, c'est possible.
C'est ça qui n'est pas vu passer. Bon voilà, qui était pas là pendant un an. Donc, en gros, le principe, il y a deux équipes qui vont s'affronter. Dans chaque équipe, il y a un maître espion qui va tenter de faire deviner les cartes qui sont enfin, certaines des cartes qui sont posées sur la table. Donc dans la version Codenames normale, ce sont des mots, et dans la version image, ce sont des images. Pour ce faire, le maître espion va indiquer à son équipe un mot et un chiffre. Ce mot va être un dénominateur commun pour faire deviner plusieurs cartes sur la table, et le chiffre va être le nombre de cartes qui sont qui ont ce dénominateur commun. Alors évidemment, chaque équipe a ses cartes à faire deviner, et puis il y a une petite épine, une
carte fatale, un assassin.
Exactement, il y a un assassin sur lequel il faut pas tomber, donc il y a une carte sur laquelle aucune équipe ne doit tomber sous peine de perdre immédiatement la partie. Et donc c'est la première équipe qui va faire deviner l'ensemble de ces cartes qui va gagner. Donc c'est un jeu de course en fait. Du coup, il faut prendre des risques. Il faut tenter de relier des mots qui ont rien à voir les uns avec les autres, avec un dénominateur commun, et si possible le plus de mots possible à la fois.
Puis au risque de faire en fait deviner des mots de l'adversaire, ou pire, le mot assassin quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors du coup, la différence entre les deux, vous l'aurez compris, d'un côté on a des textes, de l'autre côté on a des images. Alors déjà, j'ai pu acquérir la version image en anglais, évidemment ça gêne moins que d'avoir des mots en anglais, c'est déjà beaucoup plus accessible. Et la version image, elle est plus accessible aussi dans le sens où, pour les enfants certes, mais elle est plus accessible pour certaines personnes. Moi je trouve que en fait j'ai plus de facilité avec des images. J'ai plus de facilité à embrayer, à aller rapidement donner un indice.
Faire des associations peut-être, c'est plus facile aussi pour les associations.
Ouais, voilà. Bah déjà les mots, faut tous les lire, alors que des images, je pense, hein, tu vois, ça.
Oui.
T'as l'image qui t'arrive et tu l'analyses. En fait, le principe des images, donc dans Codenames Images, c'est pas que c'est onirique, c'est que c'est une espèce de fusion de deux images. Si je prends des images au hasard, je vais avoir par exemple une image 2D, mais sur lequel il y a que des 6. Je vais avoir une image d'une cible, puis avec des flèches dessus, mais aussi une ventouse et une hache sur la cible. Je vais avoir une échelle qui accroche à un nuage. Donc en fait, souvent, c'est deux images qui sont fusionnées pour faire quelque chose d'un petit peu étrange. La fusion donne rien de spécial. En général, on s'appuie pas sur la fusion des images, mais on s'appuie sur une des deux images qui sont représentées.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Du coup, ça fait que c'est plus accessible parce que finalement, on n'a pas un seul mot sur la carte, mais en réalité, on en a au moins deux. C'est-à-dire qu'on a au moins deux images sur lesquelles on peut mettre un nom, et en plus sur chacune des images potentiellement on peut mettre plusieurs noms.
Oui.
Parce que voilà, une image, voilà, j'ai qu'est-ce que je vais prendre,
potentiellement tu peux jouer sur l'association aussi, donc ça te fait vraiment plusieurs pistes en fait pour trouver des liaisons quoi.
C'est ça, voilà, en fait par exemple j'ai une image avec c'est un podium avec une coupe. Là, pour le coup, celle-là, elle fait plus que deux images, j'ai l'impression, parce que il y a le podium, au lieu de faire 1, 2, 3, il fait 0, 1, 2. Il y a une coupe sur le podium. Et puis, c'est un podium, ça fait aussi des marches, ça fait, tu vois, enfin, je veux dire, c'est une coupe, mais ça peut aussi, c'est un trophée, tu vois. C'est comme si, en fait, t'as eu plusieurs mots sans les images, finalement. Alors, ça peut aussi, forcément, à l'inverse, ça peut aussi embrouiller un peu les pistes, parce que.
Oui, c'est plus dur d'être précis, en fait. La précision est plus difficilement atteignable en fait.
Bah, disons que quand tu vas vouloir relier un mot, tu vas peut-être avoir d'autres mots qui vont se relier automatiquement avec, alors que tu voudrais pas. Enfin, c'est-à-dire que je trouve qu'en fait c'est plus facile de trouver des associations d'idées. Moi j'ai régulièrement annoncé des 4 ou 5, donc c'est-à-dire que je donne un dénominateur commun pour 4 ou 5 cartes.
Ah oui.
Avec la version
texte. C'est très rare avec la version texte.
C'est le max que j'arrive à faire quoi.
3, ouais, c'est 3, c'est déjà très bien. 4, c'est le grand maximum, quoi.
Et puis, je sais pas, personnellement, pour moi, c'est lent de trouver. Vraiment, je mets du temps à trouver des associations avec les textes. Et du coup, c'est rare que les parties que je fasse durent 15 minutes, comme c'est annoncé sur la boîte. Souvent, on est à 20-25 minutes, parce que, en plus, on a un premier tour qui est assez long. C'est un des défauts de Codenames Text. Ouais, c'est que souvent, enfin, je sais pas, t'y as joué pas mal aussi, j'imagine. Enfin, t'as dû faire quelques parties.
Oui.
Je sais pas chez toi,
Ouais.
mais enfin, chez moi, souvent, enfin, les maîtres espions, on les laisse un peu chercher. Et puis ceux qui sont autour, bah, ils discutent un peu. Voilà, bon, c'est pas très gênant, mais parce que tout le monde l'accepte et tout le monde le sait. Mais voilà, on laisse les maîtres espions un peu cogiter au début pour chercher au moins le premier mot à donner.
Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai pas joué pour le coup au Codenames Image, au Codenames Pictures, mais c'est clair que c'était une évidence cette version image hein, dès le départ. Enfin, il y a très vite eu des variantes avec notamment des cartes de Dixit, etc. avant qu'ils annoncent le Codenames
C'est
Pictures.
ça, ouais.
Moi, effectivement, le gros avantage que je vois aussi et ce qui est des fois un peu pénible dans la version texte, enfin moi, ce que je trouve des fois un peu embêtant dans la version texte, c'est justement l'analyse de tous les mots. C'est-à-dire bien retenir les 25 mots, pas se focaliser seulement sur ceux qu'on doit faire deviner, surtout quand on est côté maître espion, réussir à ouais, ça. Réussir à se souvenir de tous les mots, on est sans cesse obligé de les relire, c'est un peu long déjà au début de regarder tous les mots, et effectivement avec la version image, le gros avantage que j'y vois, c'est d'avoir vraiment une vision d'ensemble beaucoup plus facilement qu'avec la version, parce que tu peux regarder plusieurs images en même temps, c'est pratiquement impossible
C'est
de
ça.
lire plusieurs mots en même temps.
Ouais, je suis d'accord. Après, enfin, je vais quand même redonner un peu ces lettres de noblesse au jeu initial. Pour autant, moi, je joue pas mal avec ma belle famille et eux, c'est des joueurs de Scrabble, des
Oui.
joueurs de jeux traditionnels en fait, des joueurs de Scrabble, de belote, de bridge, tout ça. Et eux, ils préfèrent la version texte. Et en fait, d'ailleurs, enfin, je leur ai offert la version texte. J'aurais pu leur offrir la version Pictures à ce moment-là, et je me doutais en fait qu'ils allaient plutôt se porter sur celui-là. Je leur ai fait essayer les deux plus tard, et effectivement, bah, j'ai eu raison. L'attachement aux mots bah, fait qu'ils préfèrent ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une sensibilité aussi différente d'une personne à une autre. Est-ce que c'est vraiment le fait que ce soit des joueurs de Scrabble, des joueurs de jeux traditionnels? C'est ma théorie, je sais pas si c'est vrai. C'est ma théorie, je pense que effectivement, vous êtes des amateurs de mots, quoi. Donc du coup,
Oui,
je pense que je dois
alors
pas être très loin de la vérité.
non, non, mais
Est-ce que ça
alors
marchera pour tout le monde? Je sais pas.
attention, moi je dis pas du tout du coup que le Codenames classique donc texte est moins intéressant que le Codename Pictures. Je pense juste que le Pictures est plus facilement, enfin il est plus facile à appréhender au niveau de bien identifier toutes les cartes. Par contre, effectivement, je trouve le côté mot très intéressant aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup le premier, hein, il n'y a pas de souci. Et effectivement, j'ai pas joué au Pictures, donc c'est dur de faire une comparaison. Je dis juste que voilà, ça me semble plus simple, on va dire, dans cette partie de mémorisation des différentes cartes. Par contre, les associations de mots, c'est vrai qu'on peut on peut avoir une finesse des fois je ne sais pas si c'est possible avec des images.
Ouais,
Une finesse
je pense qu'effectivement
d'association.
c'est plus cérébral la version texte, elle est plus cérébrale,
Oui.
elle me demande plus d'efforts que la version image, je pense. Du coup, bah, chacun d'aller trouver ce qui l'intéresse. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a une différence assez, alors je vais dire fondamentale, ça va être paradoxal avec ce que je vais dire après, c'est que on n'a pas 25 cartes. Enfin, dans la version de base, on a 25 cartes qui sont sur le plateau et on n'en a que 20 dans la version image.
D'accord. Alors 20, c'est pas un carré du coup. C'est pas
C'est pas un
peut-être un
carré,
carré.
du coup c'est 4 par 5, ce qui est pas
D'accord.
du tout gênant.
Non, non, c'est pas gênant.
Sauf que du coup, effectivement, les cartes, comment ils appellent ça, les cartes qui indiquent le plan en
Les
fait,
positions, ouais.
voilà, bah du coup, elles ont que deux, tu peux les mettre que dans un
Deux
sens et dans
sens,
un autre, voilà.
ouais.
Alors que celle du Codenames texte, du coup,
Quatre
comme ça
sens, ouais.
forme un carré, tu peux faire quatre sens avec. Bon,
Bon, après, tu peux très
franchement, le
bien.
nombre de possibilités que ça offre, on s'en fout, hein. il pourrait y avoir que 20 cartes dans le truc, je suis pas sûr qu'on oui. arriverait à retenir les positions. Donc.
Et si t'as... Oui, de toute façon, les cartes, les images changent aussi, donc le nombre de combinaisons est quasi infini. Hein. Puis après, tu peux, si t'as les deux, je suppose que tu peux très bien faire un 5x5 avec les images et puis choper les cartes de positionnement du classique, quoi.
Oui, voilà, ouais. Après, alors, c'est juste que les cartes des images sont carrées. Du coup, les tuiles aussi, les tuiles qui permettent donc de dire, ben, j'ai trouvé cet indice-là pour l'équipe bleue, j'ai trouvé cet indice-là pour l'équipe rouge. Les tuiles sont carrées, alors que dans la version texte, elles sont rectangulaires. Mais effectivement, ça marchera quand même. Hein. Je veux dire, c'est juste, ergonomiquement, ça sera pas idéal, mais ça va pas gêner le jeu.
Du coup, comme il y a 5 tuiles de moins, dans la répartition tuiles à faire deviner, tuiles neutres et assassins, il y a moins de quoi ? Il y a moins de tuiles à faire deviner ? Ou il y a moins de tuiles neutres ?
Dans la version Codenames normale, il y a 8 et 7. Enfin, il y a 8 cartes
commence,
à faire deviner pour celui qui commence et 7 pour celui qui suit. Et c'est... Oui, c'est ça. Bah, c'est pareil en fait. Et c'est en fait c'est pareil dans la version image. Il y a donc un peu moins de neutre finalement.
Il y a moins de neutre, d'accord.
C'est ça. Ça resserre un peu le jeu.
Ça resserre, ouais, c'est pas mal.
C'est pour ça que je disais que j'allais dire fondamental, mais en fait, j'ai pas trop senti de différence dans le fait qu'il y ait 20 ou 25 cartes. J'ai pas. Je sens plus de différence dans le fait que ce soit des images d'un côté et des textes de l'autre que dans le fait qu'il y en ait 20 ou 25.
Oui, ça doit pas changer énormément.
Autre chose, oui, en fait, dans les règles, ils proposent de mixer les deux. Alors, j'ai pas encore essayé. Mixer images et texte. Ouais, ils proposent de mixer les deux.
Ouais, ça doit être intéressant.
Alors, bah, comme on disait, il y a des gens qui ont essayé avec Dixit, il y a des gens qui ont essayé avec plein de choses. Je me rappelle avoir vu des photos de Bruno Feduti passer où ils avaient essayé avec des pochettes
avec des
de CD, je crois.
Avec des boîtes
de jeux. Ils avaient essayé avec des boîtes de jeux.
J'ai entendu des pochettes de vinyle.
Ouais, c'est ça, des pochettes de vinyle. Et Bruno Feduti a essayé avec des canards en plastique aussi.
Des canards en plastique.
ouais, je crois. Et ça avait l'air assez rigolo. Mais voilà, bon, en gros, c'était des canards un peu customisés avec des espèces de déguisements, quoi. Voilà.
Ouais, mais du coup, ça reste, pour le coup, pochette vinyle ou boîte de jeu, ça reste soit des illustrations, enfin, ouais, il y a un ensemble d'illustrations de texte, mais mélanger images, certaines cartes en images et certaines cartes en texte, c'est quand même... je sais pas s'il y a des variantes de cet ordre-là qui ont été tentées. Genre moitié carte de Dixit, moitié texte.
Ah, je sais pas.
Je pense pas, ouais. Non, mais ça peut être intéressant.
Après, alors je sais pas si c'était proposé dans le Codenames de base, j'ai pas revérifié les règles, parce que c'est le genre de jeu en fait qui a joué, et j'avoue j'ai même pas lu les règles, et dans le Codenames Picture, il propose donc quelques variantes, il propose par exemple de pas jouer avec les formes, parce que c'est vrai qu'on peut retrouver assez rapidement des formes.
Ah oui.
Donc ça permet un peu de complexifier le jeu. Il propose et ça je sais pas si ça existait dans l'ancienne, enfin dans la version normale, il propose la possibilité de donner 0 comme nombre d'indices pour jouer en fait à l'envers, c'est-à-dire que ça permet de donner comme indice que je sais pas si tu dis animal 0, bah ça veut dire que tes cartes ne sont pas des animaux.
Pas des animaux.
Voilà. Ça autorise ton équipe à donner autant de propositions qu'elle veut.
D'accord.
Du coup, ça peut être un double tranchant. Mais si tu trouves des associations, du coup, si tu trouves des associations sur les cartes qui restent, mais pas les tiennes, ça peut être intéressant.
Ouais, carrément.
Et ils autorisent aussi la possibilité de donner un mot et de dire illimité à côté. Et dans ce cas-là, ça va permettre à ton équipe de donner autant d'indices autant de réponses qu'ils veulent.
Tant qu'elles enchaînent les bonnes réponses.
Voilà, c'est ça, tant qu'elles enchaînent les bonnes réponses. Et
là... c'est vrai que sur la règle de base, ce côté limité à une proposition de plus que le nombre de mots annoncés, j'ai pas trop compris moi.
Ça te permet de faire un rattrapage, c'est un truc que t'as pas trouvé avant. Sauf que le principe de dire illimité, du coup. Tu vas donner un mot, du coup ça va peut-être être en lien avec un mot sur la grille, sauf que tu sais que tes copains là, ils en ont deux ou trois de retard, et que peut-être ils les ont trouvés depuis le temps. Et du coup, tu leur permets de pas faire juste plus un, mais de faire du coup autant qu'ils veulent. Et donc de
Ah ouais,
pouvoir
mais.
rattraper les 2-3 de retard qu'ils pourraient avoir.
Ouais, mais je trouve ça très bien et c'est ça, c'est. Enfin, je trouve ça bien. Et je comprenais pas justement cette règle limitante dans la première version. Parce que du coup, tu te retrouvais à donner des mots avec. T'en avais deux ou trois et tu disais quatre ou cinq pour essayer de rattraper tous ceux qu'ils avaient oubliés avant.
C'est ça.
C'était un peu risqué, quoi.
Ouais. Je suis en train de regarder si c'est présent dans la règle de codenames normale, cette
Je ne crois pas, hein.
histoire.
Je crois pas. Ça me dit rien en tout cas.
Ben, moi non plus, ça me disait rien.
Bah, je pense que de toute façon, comme Picture, c'est le deuxième, ils ont forcément remarqué des choses à l'usage du premier, quoi.
Ben non, je vois pas ça dans les règles. Bon, j'ai parcours rapidement, mais non, je vois pas ça dans les règles de la VF en tout cas.
Non, ça me dit rien non plus.
Voilà. Du coup, juste petit aparté par rapport aux nominations à l'As d'Or. Bah, je trouve dommage en fait de pas avoir nominé plutôt la version image que la version texte, parce que bah ce prix, je sais pas, enfin j'ai cru comprendre quand même que c'était censé être le prix tout public, et du coup la version image, elle se place, je pense, à un niveau d'accessibilité plus intéressant, plus large. Du coup, j'aurais plutôt mis le focus sur la version image que sur la version texte. Sachant que, bah, forcément, en parlant de la version image, bah,
Oui.
derrière, dans sa traînée, elle aurait emmené la version texte. Et parce que bon, voilà, bah, on aurait dit, bah, mais bon, Codenames image, ok, mais tu connais pas, il y a aussi une version texte, tu vois. J'aurais trouvé que c'était, enfin, personnellement, j'aurais trouvé que c'était plus intéressant. Après, peut-être qu'il y a des soucis aussi il est censé sortir pour Cannes. Donc, du coup, c'est un peu juste. Est-ce qu'ils étaient sûrs de pouvoir le sortir à Cannes, etc. Et peut-être aussi tout
Ouais.
ça qui rentre en ligne de compte, hein, je sais pas.
Mais c'est pas le cas d'Unlock aussi qui sort à Cannes? Non, il sort un peu avant Cannes?
Alors Unlock, il sort un peu avant Cannes, il sort
D'accord.
là on est le 2 février, je pense qu'il sort, il doit sortir la semaine prochaine, quelque chose comme ça, il
D'accord,
doit
ouais, donc
sortir
c'est.
début février normalement.
Ok, oui, donc c'est peut-être oui, le délai qui n'était pas garanti ou.
Oui, ouais, je sais pas. Voilà. Moi, je vous recommande de bien regarder pour faire votre choix entre ces deux jeux. Je vous recommande d'en acheter un. Ça, c'est clair. Pour moi,
Ouais,
Codenames, c'est vraiment une évidence.
c'est un
C'est
indispensable. Ouais.
mon chouchou pour la sélection As d'Or, mais je pense que c'est pas lui qui va gagner, mais c'est mon chouchou quand même.
Alors, ça veut dire que c'est ton chouchou, mais tu mets pas une pièce sur lui, c'est ça?
Non, c'est ça, ouais, je miserais pas sur lui, parce que bah justement, je pense que si ça avait été la version image, j'aurais mis un billet dessus. Mais pour l'accessibilité, je pense que du coup, King Domino a plus ses chances.
Ouais, bah moi c'est mon chouchou King Domino je pense et je mettrais bien une pièce quand même sur King Domino pour ce prix.
Pour moi, en fait, alors. Bon, j'allais dire pour des trois, parce que enfin les trois que j'ai joués, c'est Codenames, King
King Domino
Domino
et Imagine, ouais.
et Imagine. Effectivement, le plus accessible des trois, c'est King Domino. Du coup, j'aurais tendance à dire, étant donné que c'est quand même, a priori, de ce que j'en comprends, les valeurs portées par ce prix, c'est l'accessibilité. L'accessibilité au plus grand nombre, du coup, King Domino a l'air d'être quand même favori là-dedans, puisque.
Ah, bah.
Codenames, il faut lire les textes, et imagine, il faut aussi lire les textes, en plus, il faut des références souvent culturelles.
Ou non, bah alors moi je suis pas d'accord. Je pense que, enfin moi je trouve Imagine plus accessible que King Domino,
Ah bon?
parce que vraiment tu prends une personne lambda qui
Ah, je
connaît rien
parle
au
par
jeu de
rapport aux
société.
enfants, par exemple, tu vois?
Ah ouais, mais moi j'ai joué avec des enfants en très bas âge, enfin en très bas âge, non pas en très bas âge, mais aux alentours de 4-5 ans. Bah, ils ont souvent beaucoup plus d'imagination que nous, hein.
Ouais, après tu leur fais choisir les mots, quoi. C'est ça
Oui,
aussi, il
après,
faut.
bah oui, après, il faut leur lire soit leur lire la carte, soit carrément leur dire, ben voilà, fais-moi deviner quelque chose, t'es libre. À 5 ans, ils ont plein d'idées de trucs à dessiner, de trucs à te faire deviner. Des fois, c'est bien tiré par les cheveux, mais non. Donc sur l'accessibilité, je pense que, enfin moi, je trouve Imagine plus accessible. Enfin, t'as vraiment pas besoin d'avoir un passif ou de lire. Enfin, il n'y a pas, pratiquement pas de règles, quoi. C'est, c'est tu prends des cartes,
c'est plus
et
naturel,
tu fais des trucs. C'est un peu plus naturel. Mais voilà, King Domino, il est quand même assez malin. Il boxe sur plusieurs tableaux.
Sur plusieurs critères, quoi. Ouais. Il remplit bien la grille de critères.
C'est ça.
Toi. Ouais. Ok. Ben, on verra ça à la fin du mois.
Voilà, bon. Et puis la surprise, c'est un petit peu unlock aussi.
On pronostique tous les deux King Domino, c'est ça?
C'est ça.
On s'engage à se faire pourrir par nos auditeurs.
Pas,
si
pas
c'est
de
pas
problème.
Ça.
Oui, non, bah. Je pense que ça. Après, je sais pas. Unlock, j'ai pas pratiqué.
J'ai imprimé le print and play, là, le tuto. Je vais voir si j'arrive à jouer ce week-end. Ça n'est pas gagné, mais bon, faut déjà que je le découpe alors.
les quelques retours que j'en ai eu sont plutôt bons, mais je pense aussi que voilà, dans l'esprit, vu le type de jeu, on est quand même à cheval entre du familial et de l'expert parce que c'est de l'escape room, etc. C'est pas non plus. Moi, je l'aurais limite vu peut-être dans la catégorie au-dessus, je sais pas.
J'ai pas joué, alors du coup, je peux pas dire.
Par rapport aux trois autres, ou surtout par rapport à Imagine et à King Domino. Alors j'ai pas joué non plus, hein, mais c'est l'idée que je me fais d'une escape room, ce que j'ai pu en voir passer, etc. Ça a l'air très très bon, hein, mais est-ce que c'est du très familial, je sais pas. Sur l'accessibilité dont on parlait, je sais pas.
Écoute, on verra quand on aura essayé ça, et puis on verra ce que le jury nous a réservé.
Tu veux mettre une petite pièce sur la catégorie expert ou pas aussi?
La catégorie expert.
Donc on rappelle les nominés. Donc il y a Conan de Fred Henry, il y a Scythe qu'on vous a présenté déjà dans une émission de Proxy Jeux, et il y a Star Realms qui est un petit jeu de
Star Realms. Ouais, bah Star Realms, on en a beaucoup parlé dans Proxy Jeux aussi. Hein, il y a très longtemps. je vais pas refaire la polémique que j'ai soulevée sur Twitter. Enfin non.
Bah oui, c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps en VO, pour faire le point. Hein, c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps en VO.
Qui est sorti en 2014 en VO. Hein.
Voilà, qui est sorti en VF en début, je crois, d'année dernière. Donc
tout début 2016.
Qui rentre dans les critères, qui aurait pu déjà être sélectionné finalement au festival de Cannes l'année dernière.
C'est ça. Mais en fait, la sélection se fait sur 18 mois, c'est-à-dire,
jusqu'à 18 mois, ouais.
On peut sélectionner un jeu qui sort sur le salon, enfin, le jury peut sélectionner un jeu qui sort sur le salon, jusqu'à un jeu avec une antériorité de 18 mois.
18 mois. Donc ouais. Oui, il rentre tout à fait dans les critères, mais c'est vrai qu'il aurait pu peut-être être là déjà l'année dernière. Et
surtout avec toute la pub qu'on en avait fait de ce jeu, quoi, bordel.
Ouais, c'est vrai que
comme quoi, personne nous écoute, quoi.
Il a pas mal tourné, mais bon, il y en a qui sont plus influents que nous au niveau publicité, tu sais.
Voilà. Donc, dans la catégorie expert, Harvey, ce qui était assez surprenant, c'est que au final, c'est trois jeux qui ont été kickstartés qui sont dans cette catégorie. Alors c'est vrai que sur Kickstarter, on a quand même plutôt tendance à avoir des jeux experts, hein, donc quelque part ça se tient.
Après il y en a, enfin pour la défense des jeux, finalement il y en a qu'un seul qui est passé sur un Kickstarter francophone, c'est Conan. Pour les deux autres, en fait, c'était du Kickstarter anglophone avec sortie boutique éditeur un peu plus classique pour la version française. Mais c'est compliqué, hein, parce que bon, j'ai tendance à mon coup de cœur, c'est forcément Scythe, hein, ou Scythe,
ouais,
pour ceux
qui veulent. Ça m'aurait étonné.
J'aime beaucoup Star Realms aussi, c'est un très bon jeu, un petit jeu de deck building, un jeu à deux en plus. Ça ferait plaisir à Bruno Catala, parce que c'est vrai qu'il dit souvent que les jeux à deux sont jamais récompensés.
Il y a eu Seven Wonders Duel quand même qui est en train d'engranger des prix. Hein. Et pour le coup, il en est co-auteur.
Oui, mais pour l'instant, il n'a pas eu ni d'As d'Or ni de Spiel. Enfin, voilà, les gros prix souvent fuient un petit peu les jeux à deux. Mais voilà, Star Realms, je ne sais pas comment me placer par rapport à ça. C'est vraiment pas du tout le même. Les jeux sont quand même très hétéroclites dans la dans la catégorie expert, hein. C'est des jeux qui sont très très différents, autant au niveau du public auquel ils s'adressent qu'au niveau des mécas. C'est vraiment trois jeux très différents, donc c'est un peu dur de faire un pronostic. Bon, moi Conan, je trouve qu'il mériterait pas de gagner. C'est un bon jeu qui marche bien, le concept est sympa, le concept d'Overlord est très bien. C'est un jeu qui plaît beaucoup aux gens qui aiment les Ameritrash. Mais alors c'est mon avis personnel, hein, ne commencez pas à me lyncher s'il vous plaît. Mais voilà, je trouve qu'il a pas il a pas ce petit truc qui fait que qui mérite de gagner le prix par rapport aux deux autres que
par
je trouve
par rapport aux deux autres, c'est surtout ton avis par rapport aux deux autres quoi.
C'est ça, par rapport aux deux autres que je trouve voilà plus intéressant.
Moi je mettrais bien une pièce sur Star Realms quand même.
Bon bah alors pour par esprit de contradiction, je mets une petite pièce sur site alors.
Sur Safe, ok. Et bah écoute, on verra ça plus tard. Tu veux te prononcer sur le prix enfant donc ton premier.
Je ne connais pas trop les jeux, donc c'est toujours un peu difficile. C'est vrai que tu peux me rappeler les jeux déjà.
Je les ai pas alors en tête, on là. A Kikou le coucou, on ouais. a l'âge de Pierre Junior et on a Animove.
Alors, je ne connais que l'âge de Pierre Junior.
Qui a joué
Je n'y ai pas joué. Je suis un grand fan de l'âge de Pierre. J'ai eu que des très bons retours sur l'âge de Pierre Junior. J'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Pour apprendre, pour les gens qui aiment les jeux de ressources, les jeux un peu pose d'ouvriers, qui veulent faire découvrir ça à des enfants, ça a l'air vraiment très très bien. C'est très très bien foutu apparemment. Donc moi je mettrai une petite pièce sur l'âge de Pierre Junior.
Moi je vais rien parier du tout parce que j'ai joué à aucun et effectivement j'ai eu que des bons échos de l'âge de Pierre Junior. J'ai entendu parler de Kikou le coucou.
Kikou le coucou, ça, j'ai entendu parler aussi.
Le Gobelin Rose qui en a parlé, il me semble. Mais c'est tout. Donc
moi je mets une pièce là-dessus mais je connais pas les deux autres donc pareil c'est un peu une pièce mise à l'aveugle. Mais bon là je crois en ma chance naturelle pour
moi je suis pas joueur, je mets pas de pièce là.
T'es pas joueur.
Je suis pas joueur dans ce sens-là non.
D'accord.
Je prends pas des paris fous.
Vous avez tous noté hein, Cyrus n'est pas joueur, je sais pas ce qu'il fait là mais
du coup on a fait une petite digression sur la Sdor. Bon, on s'est dit que pourquoi pas après tout hein, étant donné qu'on a plus trop l'occasion d'en proxy jeu parce que nos enregistrements des épisodes principaux, les épisodes invités sont, on essaie de les anticiper au maximum maintenant. Du coup ça nous laisse plus trop la possibilité de parler actu. Du coup, on s'est dit, avec le fixe, on va se permettre de prendre un peu le créneau Asdor, en très très light. Quoi.
De toute façon, on sera présents tous les deux sur l'événement, et donc on risque de couvrir ça ou au moins de faire un petit débriefing post-Cannes, un petit épisode spécial sur le débriefing.
Oui,
de
je pense que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que on laissera de côté la chronique jeu du mois traditionnelle pour le mois prochain, parce qu'en plus on va être vraiment juste en sortie de Cannes, et je pense qu'on fera justement le débrief Cannes à la place.
Très bien, ça me va bien.
Voilà, on vous parlera des jeux qu'on aura pu essayer sur le salon. Je suis pas sûr que toi t'auras le temps d'essayer beaucoup de choses, mais
pour au moins avoir
ton impression sur le salon et puis l'envers du décor sur
l'organisation un peu du protolab, le speed dating auteur,
voilà,
tout ça.
Ça va être intéressant.
Si ça intéresse certaines personnes, je pourrais vous faire un petit retour là-dessus. A priori, ça va me prendre une bonne journée sur les 3 jours, donc j'espère avoir le temps d'essayer quelques trucs.
Ok. Très bien, c'est cool. Si vous allez à Cannes, n'hésitez pas à nous taper sur l'épaule si vous nous croisez. Hein. Moi, j'aurai le t-shirt proxy jeu. Il faut que je vois avec le DD si on peut t'envoyer un t-shirt, peut-être, si tu veux.
Bah ouais,
et
c'est
puis,
très
bien. Et puis, on a des badges, tout ça. Bon, voilà.
Bah, tu n'es pas obligé de me l'envoyer, hein. Tu peux me le ramener à Cannes, hein. Ça marche aussi.
Bah ouais, mais en même temps, c'est DD qui les a, il faut qu'il les envoie. Il va falloir qu'il me l'envoie. Donc.
Ah ouais, ouais, ouais.
Donc autant qu'il te l'envoie directement. N'hésitez pas, nous ça nous fait toujours plaisir de rencontrer des auditeurs et puis de pouvoir discuter avec des joueurs.
Ouais.
Je crois que ça va clore notre épisode. J'ai pas refait la fiche signalétique de Codename Pictures.
Codename Pictures.
Voilà,
vas-y,
je vais aller,
je t'en prie.
Je vous la fais, c'est juste pour le plaisir du nom des illustrateurs, hein, que je la refais. Donc, Codename Pictures, ou Codenames Images, qui est donc en précommande chez notre partenaire Philibert. Donc au prix de 17,90€, qui sera disponible à partir de fin février, donc Clan et au-delà. C'est un jeu donc de Vlada Jvatil pour 2 à moult joueurs. Donc à partir de 10 ans, des durées de partie de 15 minutes, là pour le coup je fais souvent moins de 15 minutes, et qui a été illustré par, alors c'est reparti, David Cochard, Jana Kiganova, Thomas Kucherowski, Philippe Neduc et Michal Tsouchanek.
Beaucoup mieux que la première fois quand même.
C'était mieux, hein, c'était un peu mieux. J'ai un peu ripé sur le dernier. Désolé Michal. Michal, il y a des accents un peu bizarres hein, sur les lettres. Je pense qu'ils sont aussi de l'Est. Il doit être un petit peu tchèque.
Bon, bah merci à tous de nous écouter, toujours fidèles au poste. Puis à très bientôt du coup pour le débrief de Cannes. Et puis en attendant, on vous dit
jouez bien. Je sais pas si t'as vu, j'ai mis une super. J'ai customisé ma bonnette. J'ai mis des mouchoirs dessus. Je pense que ça va limiter un peu les pop. Voilà. Bon, on verra bien. J'ai fait un petit essai, ça a l'air pas trop mal, on verra.
Je fais juste un petit break, j'ai un problème, j'ai mon micro qui descend de volume tout seul de temps en temps. C'est un peu chiant. Et nous vous retrouvons donc une heure plus tard pour cette.
J'étais perdu, je t'avoue. J'étais pas bien concentré, je suis désolé, c'est ma faute.
En fait, pour chaque couleur, il y a des valeurs de 2 à 6.